la stratégie d'entreprise et la RSE ne peuvent pas se penser de manière séparée.
Dirigeant, comment concilier RSE et performance économique ? Épisode 3. La RSE, une opportunité face aux enjeux des entreprises ? Emmanuel Brémond reçoit Charlotte Limousin, déléguée générale chez Delphis.
Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, je rencontre Charlotte Limousin, déléguée générale chez Delphis, une association professionnelle rassemblant plus de 70 bailleurs sociaux. Depuis plus de 10 ans, Charlotte suit et accompagne l'essor de la RSE dans le secteur du logement social. Dans cet échange, Charlotte va partager avec nous sa vision positive de la RSE et l'intérêt qu'on a de l'intégrer dans sa stratégie d'entreprise. Nous allons avoir un focus, un éclairage particulier sur le secteur du logement social.
Première partie, les enjeux de la RSE dans le secteur du logement social.
Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Alors Charlotte, vous intervenez aujourd'hui en tant que déléguée générale chez Delphis. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que fait Delphis ?
Alors Delphis est une association de bailleurs sociaux, donc on travaille uniquement dans le logement social et on a comme vocation de favoriser, faciliter le partage de pratiques entre bailleurs sur un certain nombre de sujets et également de développer de l'innovation en termes d'outils, de méthodes au service des bailleurs sociaux.
Quel a été votre parcours avant d'arriver chez Delphis ?
Alors moi personnellement, j'ai travaillé 3 ans en ONG à l'international avant de rejoindre Delphis il y a une douzaine d'années maintenant. D'abord en tant que chargée de mission RSE avant de devenir déléguée générale depuis maintenant un peu plus d'un an.
Qu'est-ce qui vous a amené à ces sujets-là ? Comment tout ça naît dans l'histoire ?
Alors moi, je pense qu'il y avait un intérêt personnel assez lointain qui m'a amené d'abord sur les carrières humanitaires, en fait, hein, de l'humanitaire, en master d'affaires internationales humanitaires, qui est devenu un master en développement durable. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert la RSE. Hein. Ma première approche, c'était plutôt l'humanitaire. Et puis la RSE, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai longuement hésité entre les deux. Donc j'ai commencé par l'humanitaire et après j'ai repris une formation sur la RSE pour mieux comprendre les enjeux au sein d'une entreprise et dans un contexte d'entreprise qui est évidemment différent d'un contexte d'ONG.
Alors aujourd'hui, vous intervenez auprès des bailleurs sociaux. Alors on pourrait faire un raccourci et se dire, bon, les bailleurs sociaux, ils sont pleinement RSE. C'est pas si simple. C'est quoi les enjeux prioritaires dans ce secteur-là ?
Alors, il y a un enjeu déjà de fond, effectivement, comme vous le dites, de faire prendre conscience que c'est pas parce qu'on est dans le logement social qu'on est pleinement RSE par nature. Évidemment, il y a une forme de continuité avec la nature même de l'action, l'objet social des bailleurs sociaux. Néanmoins, évidemment, la RSE est beaucoup plus large que ça. Et elle amène à s'interroger sur tous les champs de son action, y compris de son fonctionnement. Je dis souvent que la RSE, c'est à la fois ce que l'on fait, mais c'est aussi comment on le fait. Et le comment est très important. Donc voilà, et on voit bien qu'aujourd'hui, on a des enjeux qui n'étaient peut-être pas aussi prégnants il y a 10 ans. C'est aussi ça, la RSE, c'est pouvoir être attentif à l'évolution de son contexte. Donc concrètement, aujourd'hui, les grands enjeux en matière de RSE, il y a évidemment la dimension environnementale. Peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'urgence climatique. On s'est concentré pendant très longtemps sur l'énergie. Aujourd'hui, on se rend compte que l'énergie, c'est pas que ça. Il y a aussi le carbone derrière. Il y a aussi l'adaptation au changement climatique. Et derrière, il y a la biodiversité, l'économie circulaire. Ça, c'est sur la partie environnementale. Après, sur la partie sociétale, qu'est-ce qu'on a comme enjeu ? Les évolutions sociodémographiques, le vieillissement de la population, l'évolution des compositions familiales, des façons d'habiter, une forme de précarisation aussi. Donc tout ça interpelle. On a des parcours de vie qui sont beaucoup moins linéaires qu'avant. Avant, le logement social, il y avait une forme de parcours un peu naturel. Le logement social était une étape de sa vie, puis après on en sortait, on devenait propriétaire éventuellement. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas du tout aussi simple. Voilà. Et puis après, il y a des enjeux qui sont certainement pas spécifiques au logement social, mais qui sont à prendre en compte dans la RSE. C'est d'un point de vue RH, de management. Aujourd'hui, clairement, il y a des attentes de la société, des salariés, qui sont pas les mêmes qu'il y a encore quelques années. Et les bailleurs sociaux, comme toute entreprise ou toute organisation, doivent aussi prendre ça en compte.
Alors, vous le dites, hein, on a des parcours de vie complètement différents, et puis on vit des mutations qui vont de plus en plus vite. Alors, comment des bailleurs sociaux arrivent à rapidement adapter un parc immobilier, à changer leurs pratiques pour répondre justement à ces enjeux-là?
Alors, rapidement, je sais pas si on y arrive rapidement. Déjà, la première étape, c'est d'en prendre conscience, de se questionner là-dessus. Et après, c'est... souvent, ça va commencer, on va dire, par des expérimentations. Je pense que d'ailleurs, la RSE, ça commence souvent par ça. On va tester des choses, ça marche pas à tous les coups. En tout cas, nous, à Delphis, quand on porte l'innovation, c'est des messages aussi qu'on porte. Et puis après, il faut se poser la question de, une fois qu'on a expérimenté, comment on étend ça quand on est bailleur social et qu'on gère plusieurs dizaines de milliers de logements, et d'avoir ça pleinement intégré dans sa stratégie patrimoniale. Donc certes, les choses vont pas avancer rapidement, mais en tout cas, c'est de se mettre en ordre de marche pour que ce soit pleinement intégré dans les investissements, les choix de stratégie qu'on va faire pour les prochaines années, et puis comment on intègre ça dans ses pratiques, dans l'évolution de ses métiers aussi éventuellement.
Alors, c'est quoi votre méthodologie de travail pour mettre les gens en mouvement là-dessus? Comment vous y prenez? Parce que vous êtes extérieur à ces bailleurs sociaux, donc vous êtes un animateur. Comment on les mobilise?
Alors, nous, au niveau de Delphis, on va avoir plusieurs rôles. On va déjà avoir un rôle d'éclairage sur ces enjeux-là, donc de prise de conscience, de questionnement. On arrive... jamais avec des réponses toutes faites. Donc, on a cette première phase là et de questionnement collectif entre bailleurs. Et après, au niveau de Delphis, nous, la façon dont on travaille, en tout cas, et dont on accompagne les bailleurs, c'est au travers de développement de méthodes et d'outils qu'on construit toujours avec les bailleurs pour s'assurer qu'on n'est pas hors sol. On s'alimente et les bailleurs s'alimentent entre eux de leurs expériences, de leurs enjeux qui sont pas toujours tout à fait les mêmes. Donc voilà, on propose des méthodes, des outils. Lorsque c'est pertinent, on peut aussi faire appel à des expertises ou des regards extérieurs, que ce soit une expertise très technique ou tout simplement aller associer, interroger des associations de locataires qui vont avoir un autre regard, encore une autre perspective. Voilà, et l'idée, c'est de réfléchir collectivement et puis de co-construire ensemble ces outils, que ce soit aussi bien sur la démarche RSE dans son ensemble, d'accompagnement sur la méthode, ou sur des sujets beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifiques sur un enjeu environnemental ou un enjeu sociétal en particulier.
Et alors, dans cette démarche, vous avez aussi... une intervention auprès des collectivités locales et territoriales, puisque un bailleur social, il répond aussi à une demande de la collectivité.
Je dis souvent que dans les spécificités peut-être de la RSE pour le logement social, il y a déjà une chose importante, c'est le long terme. Vous avez évoqué tout à l'heure rapidement. Nous, à l'inverse, c'est surtout cette question du long terme. L'impact sur le long terme. Et puis l'autre spécificité, une autre spécificité, c'est la dimension locale. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on est bailleur social, sa RSE, elle va se jouer essentiellement au niveau local, avec des acteurs locaux, collectivités, mais également les entreprises du territoire, les associations du territoire. Donc nous, au niveau de Delphis, comme nous, on est à l'échelle nationale, on a moins ce lien direct. On est plutôt sur comment on accompagne les bailleurs pour eux cultiver, développer, impulser des relations au niveau local. On a travaillé, par exemple, et on continue à travailler au niveau de Delphis, sur la question de la mesure de l'impact local, par exemple, qui est clairement à destination des collectivités partenaires pour pouvoir montrer la contribution d'un bailleur à l'échelle du territoire et pouvoir entamer ou renforcer un dialogue avec les collectivités sur... ce à quoi le bailleur contribue, là où potentiellement il pourrait peut-être contribuer encore davantage. Tout ça inscrit dans le contexte territorial, qui n'est pas le même évidemment d'un territoire à l'autre.
Ça vous permet d'avoir des référentiels, des outils, une base de données, une banque de données, ouais.
Exactement. Alors nous, au niveau de Delphis, on travaille beaucoup sur des référentiels en matière de RSE, alors notamment des référentiels de reporting, d'indicateurs, de mesures d'impact. Et pour les bailleurs, l'enjeu, c'est de progressivement de se constituer une sorte de base de données sociale, sociétale, environnementale, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est aussi une demande forte et un besoin fort de transparence là-dessus, de rendre compte. Et là, encore une fois, spécificité peut-être du logement social, mais j'ai envie de dire, a fortiori, quand on a une mission d'intérêt général, quand on a, malgré tout, une forme encore d'aide publique, moi, je pense que la responsabilité et l'enjeu de la transparence est encore plus fort. Forcément, on attend plus en matière de transparence. Et donc, c'est important que les bailleurs sociaux s'outillent pour pouvoir démontrer leur action, leur impact, leur performance, identifier là aussi, là où il y a des axes de progrès. Voilà.
Vous avez des exemples à nous citer là, de bailleurs sociaux qui seraient assez matures et qui ont déjà entamé des processus importants de
changement. Alors, je ne citerai pas de nom de bailleurs sociaux, voilà. Mais oui, il y a des bailleurs. Et alors, par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, de notre point de vue, ça n'est pas une question de taille, ça n'est pas une question de statut, puisque au sein du logement social, on a à la fois des entreprises privées, des bailleurs publics. Nous, clairement, dans notre réseau, au niveau de la RSE, on a toute forme de bailleur, tout territoire, toute taille. Et je pense que ce qui va faire la différence, c'est beaucoup plus une question de culture et une question d'impulsion du dirigeant ou de la dirigeante. On a des bailleurs qui vont être peut-être plus axés sur la dimension sociétale ou alors, au contraire, peut-être plus sur la question environnementale. Certains qui vont être très novateurs, on va dire, sur le plan technique, le plan architectural, le plan du bâti. Et d'autres qui vont être très innovants, plutôt sur la partie innovation sociale, service aux habitants, action locale vis-à-vis des habitants. Donc ça aussi, c'est des questions souvent de culture, au-delà des enjeux du territoire aussi, parce que c'est évidemment pas la même chose quand on est bailleur social dans un territoire très urbain, très dense, voire en quartier prioritaire de la ville, ou quand on est bailleur social, parce que ça n'est pas forcément connu, mais il y a des bailleurs sociaux aussi dans des territoires beaucoup plus détendus, beaucoup plus ruraux, où les enjeux sont évidemment pas les mêmes.
Vous commencez à avoir des résultats concrets sur les démarches entamées ?
Oui, on voit, je pense, déjà dans l'appropriation, dans la culture. Je pense dans le degré de maturité, c'est le niveau d'intégration à la stratégie. Et après, dans les résultats concrets, ça va se jouer sur le plan environnemental, hein, en termes de performance du bâti, en termes de progression. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la progression. On part pas tous non plus d'un même historique, notamment quand on est bailleur social et qu'on fait aussi avec le patrimoine qu'on a. Mais on le voit, des bailleurs qui se sont emparés pleinement de certains sujets, notamment sur la question du vieillissement, par exemple, ou pour certains, ça va être plutôt sur le logement des jeunes parce que c'est un enjeu sur leur territoire.
Ce qui est intéressant par rapport au secteur dans lequel vous intervenez, c'est qu'il est plein de paradoxes. On vous demande de construire de façon durable, hein, pour 60 ans, 100 ans, et en même temps, on ne sait absolument pas prédire comment on vivra dans 60 ans. Comment une entreprise se mobilise ?
Effectivement, il y a plein de paradoxes, plein d'enjeux parfois un peu divergents ou en tout cas difficiles à concilier. On dit souvent que la RSE, d'ailleurs, c'est la conciliation d'une dimension sociale, environnementale, économique et de trouver le bon compromis entre tout ça. Et je pense que dans le secteur du logement social, c'est particulièrement fort parce qu'effectivement, on a des contraintes et des enjeux environnementaux très forts sur le bâti aujourd'hui. On a la dimension sociétale, on est aussi face à un public particulier parfois et une dimension économique, en tout cas des contraintes économiques très fortes. Donc cette notion de conciliation de ces enjeux est particulièrement forte. Et comme vous le disiez, il y a cette question de gestion court terme, long terme. On construit pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. On nous demande d'avoir des constructions qui soient les plus durables dans le temps possible et en même temps qui puissent s'adapter à une évolution ou des évolutions sociétales de mode de vie. C'est complexe, on n'a pas de formule magique. Je pense qu'en tout cas, il faut à minima accepter le fait de se réinterroger régulièrement, d'être à l'écoute aussi des innovations, que ce soit des innovations techniques ou de méthodes. J'en reviens à la question de tout à l'heure sur l'expérimentation aussi, hein, avoir des projets un peu expérimentaux qui sortent un peu du cadre de temps en temps et savoir en tirer les enseignements. C'est-à-dire, c'est bien beau d'expérimenter, mais encore faut-il capitaliser sur l'expérimentation et se re-questionner en permanence. Je pense que la clé, elle est là, en fait.
Alors, quand on est dans la dynamique d'une entreprise, on n'a pas forcément le temps de se re-questionner. Hein. Quand effectivement on construit un parc, il y a une rythmique qui fait qu'on n'a pas forcément ce temps-là de prendre du recul, d'innover et de créer. Alors, est-ce que c'est le rôle d'acteurs comme vous où on arrive à finalement créer une cellule de réflexion au sein des entreprises?
Alors, en tout cas, nous, clairement, Delphi, ça a été créé pour ça. C'est-à-dire, à l'origine de Delphi, c'était bien des bailleurs qui se disaient, le monde change, on doit évoluer, on doit innover, et nous, compte tenu de nos tailles, on est des petites PME, on n'aura jamais un département de R&D ou d'innovation chez nous. Donc, on va mutualiser ça. Je pense que c'est une des forces aussi de notre secteur, c'est qu'on est, malgré tout, dans un secteur un peu moins concurrentiel, je pense, que dans d'autres. Et donc, les bailleurs acceptent sans doute plus librement d'échanger, de partager, de mettre sur la table à la fois leurs questionnements, leurs enjeux et leurs pratiques. Et c'est vraiment le rôle de Delphis aussi, entre autres, d'animer cet échange-là, d'animer ce partage. De manière générale, je pense que, notamment en matière de RSE, la question du collectif, du partage, que ce soit au sein d'un même secteur d'activité ou même entre secteurs d'activité, parce que justement la RSE, ça touche tous les secteurs, tout type d'entreprise, et pouvoir s'inspirer de ce que font les autres est extrêmement important. Nous, on essaye d'apporter ça à notre humble niveau à Delphis, dans le secteur du logement social, mais en matière de RSE, je sais qu'il y a des bailleurs qui participent aussi à des réseaux locaux qui rassemblent d'autres types d'entreprises et qui viennent se nourrir de ce qui se fait aussi dans d'autres secteurs d'activité. Et je pense que c'est extrêmement important.
Et alors, comment ces structures-là arrivent aussi à embarquer toutes les parties prenantes? Parce qu'en fait, un bailleur social, il va donner à manger à un certain nombre d'entrepreneurs du bâtiment. Comment il les embarque dans sa réflexion et dans sa dynamique?
Alors là aussi, je fais le parallèle avec la réglementation du secteur et le fait qu'on me dit souvent on est dans un secteur qui, encore une fois, par nature, associe ses parties prenantes, ne serait-ce que dans sa gouvernance, ce qui n'est pas faux, puisque je rappelle que dans les organes de gouvernance d'un bailleur social, il y a des représentants de locataires, il y a des représentants de collectivités, ce qui est une spécificité. Et pour autant, je trouve que la RSE vient aussi réinterroger tout ça, parce que c'est pas parce qu'on les a dans notre gouvernance qu'on a un dialogue particulièrement ouvert, constructif, productif. Et je pense que la RSE amène à travailler de manière concrète, finalement, avec ces acteurs-là, autour de projets spécifiques. Après, il y a un enjeu de sensibilisation aussi de ces acteurs à certains sujets de la RSE. Moi, je crois beaucoup, finalement, au concret. Je pense qu'à un moment, la façon de les embarquer, ça va aller au-delà des discours, au-delà des grands engagements, au-delà de « il faut agir » ou « il y a tel ou tel enjeu ». C'est « travaillons ensemble concrètement sur un sujet ». Prenons les sujets concrètement sur un projet, et puis après, progressivement, on va capitaliser sur une relation qu'on aura créée, sur des résultats tangibles aussi, pour éventuellement aller un peu plus loin. Et la même chose est vraie d'ailleurs avec les entreprises. Oui, on travaille avec beaucoup d'entreprises. On nourrit, entre guillemets, le secteur du bâtiment. En matière de RSE, je trouve que ça amène aussi la question, encore une fois, de l'innovation. C'est-à-dire, au-delà de nourrir un secteur, comment on travaille avec eux, parce qu'on a besoin d'eux aussi pour innover dans les modes de faire, dans les constructions.
Et comment on sort de la logique du mieux-disant?
Ah, ça, c'est encore...
Dans les appels d'offres.
Mais on voit d'ailleurs, on voit de plus en plus d'intégration de la question de la RSE dans les appels d'offres, de façon soit très concrète, très opérationnelle sur les solutions qui doivent être proposées, ou même de manière générale, des bailleurs, nous on le voit aussi avec notre structure de conseil quand on répond à des consultations, des bailleurs qui mettent dans leur cahier des charges, qui nous posent la question « qu'est-ce que vous faites en matière de RSE ?» Donc on voit que c'est des choses qui commencent à faire leur apparition. On voit des bailleurs aussi qui commencent à avoir des vraies politiques, stratégies en matière d'achat durable et responsable. Voilà.
La RSE, une opportunité face aux enjeux des entreprises. Deuxième partie, les bonnes pratiques en matière de RSE.
sur le pilotage de leur, leur entreprise, en fait, et des RH. Est-ce que vous voyez des choses innovantes aussi pour que les RH soient un petit peu plus partie prenante
En interne, ouais, du coup.
En interne, ouais. Dans l'entreprise.
Oui, alors il y a l'aspect RH, et puis moi j'élargirais à la question plus largement du management, en fait, hein, qui dépasse d'ailleurs la question RH. Oui, de toute façon, je pense que les bailleurs ont conscience qu'il faut avancer sur ces questions-là. La façon de manager aujourd'hui, elle ne peut pas être la même qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, comment ça se traduit ? Ça va se traduire, alors, en termes de management, avec de plus en plus de logique participative, d'implication des collaborateurs, de co-construction. Ça peut paraître aussi très basique, peut-être dans d'autres secteurs d'activité, mais un fonctionnement en mode projet, qui n'est pas forcément la culture toujours au sein des bailleurs. La question de la transversalité, et la RSE, elle amène à réfléchir en transversalité. Donc ça, c'est sur la partie plutôt managériale. Après, sur la question plus RH et gestion des ressources humaines, bah, j'ai envie de dire, les bailleurs sociaux, comme toutes les entreprises aujourd'hui, vont devoir se poser la question de la qualité de vie au travail, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et je vois effectivement apparaître des choses un peu innovantes sur le sujet. Le télétravail paraissait très innovant. Je me souviens des premiers échanges que j'ai eus il y a 12 ans. Quand j'ai abordé la question du télétravail, on m'a regardé en me disant « mais de quoi elle nous parle ?» Aujourd'hui, c'est évidemment quasiment devenu courant, enfin chez tous les bailleurs presque. Mais au-delà de ça, on voit des pratiques un peu qui vont encore plus loin sur la réflexion sur la parentalité. Comment on travaille sur la parentalité, sur les congés paternité par exemple. Comment on accompagne des salariés aidants. C'est une vraie question, parce que la parentalité, c'est vis-à-vis des enfants. La question se pose de plus en plus vis-à-vis de conjoints ou de parents qui, soit pour une question d'accident de la vie, soit tout simplement du fait du vieillissement, des salariés qui doivent consacrer davantage de temps. Et on voit des bailleurs qui commencent à réfléchir à ces questions-là, à proposer des solutions, que ce soit en termes d'organisation du travail, de temps de travail, de congés. Donc ça, je trouve que c'est des initiatives assez intéressantes.
C'est un secteur qui est quand même assez assez chahuté. C'est un secteur réglementé. C'est la législation a forcé des rapprochements, des mariages entre bailleurs sociaux pour une question de taille. Donc en termes de RH, il y a des enjeux quand même très très forts actuellement, ouais, dans ce milieu.
Et là-dessus, d'ailleurs, nous, ce qu'on constate, c'est que la RSE est parfois vue comme une opportunité aussi, en se disant, voilà, effectivement, on sort d'une fusion, le contexte est compliqué. La RSE est une façon de construire ensemble un nouveau projet, de donner ou redonner du sens. Là aussi, on est, indépendamment d'ailleurs des questions de fusion, dans un contexte avec des contraintes économiques de plus en plus fortes, des contraintes réglementaires et des salariés qui parfois disent « mais moi, je comprends plus exactement en fait mon action, notre action. J'ai l'impression qu'on parle de plus en plus d'économie, de finances et de moins en moins de logement social. » Et la RSE est vue comme une façon aussi de redonner du sens à tout ça, d'essayer de fédérer les équipes autour d'un projet, d'une vision. Et d'ailleurs, la RSE a aussi cet intérêt-là qu'elle couvre tous les métiers. Là où quand on parle du cœur de métier de logement social, oui, construire du logement, gérer des logements, effectivement, c'est le cœur du réacteur, j'ai envie de dire. Mais après, on a toutes les fonctions support qui contribuent aussi. Et la RSE, c'est une façon d'embarquer tout le monde, en fait. Parce que tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, tout le monde est concerné. Et on peut proposer des projets, des objectifs à tous les salariés. Autour d'une vision commune, d'une vision partagée, qui est cette notion de RSE, de contribution sociétale, environnementale, territoriale.
On parle beaucoup aussi du parcours du résident, comme on parlerait d'un parcours client. Comment on intègre le résident dans toutes ces réflexions-là ?
Alors, intéressant aussi, encore une fois... Là aussi, la RSE amène à se dire, oui, on fait du logement social, oui, on travaille pour l'accès au logement, mais la RSE permet d'aller pousser la réflexion en se disant, déjà, il n'y a pas un habitant, il y a une multiplicité d'habitants, et puis l'habitant d'aujourd'hui, il a aussi son parcours de vie, donc il va avoir peut-être à un moment des besoins particuliers. Néanmoins, c'est important de penser qu'on a différents types de clients, différents types de besoins, y compris en termes de RSE, pour pouvoir répondre à cette diversité de besoins. Que ce soit, bah, je l'évoquais tout à l'heure, hein, la question du vieillissement aujourd'hui, comment on répond à ça? À l'inverse, enfin, de l'autre côté de la chaîne, on a sur certains territoires une problématique de logement des jeunes, par exemple, avec des besoins aussi particuliers, à la fois en termes de typologie, mais qui amènent à réfléchir aussi, parce que qui dit jeune dit parfois aussi mobilité, dit parfois, je pense alors aux jeunes, mais d'ailleurs on peut se poser la question aussi des saisonniers, en fait, avec des besoins très très spécifiques, y compris en termes de gestion. C'est pas l'attente d'un jeune, d'autant plus quand il est étudiant, alternant. Voilà, donc là aussi ça amène à repenser ces pratiques-là. Et pourquoi pas les penser avec les publics concernés. Et c'est là où on en vient à la RSE aussi et l'association des parties prenantes. Donc là, on peut avoir des démarches intéressantes, mais encore une fois, qui vont se faire, je pense, projet par projet. Parce que ce qui va être intéressant, c'est la réponse opérationnelle à un besoin local, à un besoin concret. Et pour pouvoir impliquer ces parties prenantes, il faut que ce soit sur quelque chose de très concret au final. Sinon, on va rester dans des grands principes.
Pour essayer d'illustrer tout ça, parce que quand je vous écoute, je me dis, mon Dieu, comment on embarque des équipes? Il y a tellement de questions, il y a tellement d'innovations à avoir, il y a tellement d'adaptations et d'agilité à développer. Comment, finalement, un président de structure logement social peut embarquer ses équipes là-dedans?
Déjà, évidemment, choisir ses combats. On peut pas tout mener de front. Oui, la RSE, c'est du 360 degrés. Et en même temps, on pourra pas tout traiter. Il faut à la fois avoir des projets assez structurants, de moyen terme, qui vont provoquer et induire des vrais changements, y compris peut-être dans le fonctionnement, dans voilà les pratiques. Et en même temps, il faut aussi avoir des actions peut-être à plus court terme pour voir des avancées et des résultats assez concrets, assez rapides. Ça, c'est la première chose, choisir ses priorités, avoir ces différentes temporalités et peut-être dans les priorités, les projets qu'on va se fixer, s'assurer qu'on balaye quand même l'ensemble des métiers. C'est-à-dire, oui, il faut choisir ses priorités et en même temps s'assurer que dans ses priorités ou dans ses projets... Ouais.
On embarque tout le monde.
On embarque tout le monde. Qu'on n'oublie pas, notamment, par exemple, des fonctions support. Mmh.
Voilà. Oui, c'est vrai que dans le logement social, on va retrouver des secteurs tellement différents et qui peuvent finalement presque jamais se croiser.
Oui, c'est une question aussi. du coup, ça peut être l'occasion aussi de travailler davantage en transversalité sur des sujets qui vont concerner soit différents métiers, différents services, voire toute l'entreprise. On évoquait tout à l'heure les sujets RH. Finalement, des sujets RH, ça concerne tout salarié dans l'entreprise. Et quand on pense même vis-à-vis des clients, très souvent, il peut y avoir des enjeux de bâti et des enjeux de service, de gestion. Et c'est intéressant d'amener ces équipes-là à se parler, à réfléchir ensemble et à voir comment elles peuvent contribuer ensemble à répondre à des besoins.
Oui, parce que ce qu'on entend souvent, c'est finalement, j'ai construit quelque chose et derrière, il y a le service d'entretien qui intervient et puis qui dit, mais comment on m'a construit ça? C'est pas possible. C'est comme le commercial qui est jamais raccord avec la production. Comment on met tout le monde raccord?
Ça reste évidemment un enjeu, hein, ces fameux silos qu'on a avec, en tout cas dans le secteur du logement social, la maîtrise d'ouvrage d'un côté, la gestion de locative ou gestion de proximité de l'autre. Alors moi, ceci dit, je vois quand même une évolution là-dessus des pratiques avec davantage de transversalité, y compris sur, par exemple, des nouveaux projets de construction où le projet va être réfléchi conjointement, justement pour anticiper, pour avoir aussi le retour d'expérience de ceux qui sont au quotidien dans les résidences et qui aussi ont quelque chose à apporter en disant « mais ça, on voit bien que dans la pratique, ça fonctionne pas, c'est pas optimal », ou on a des retours des locataires qui nous disent que ça va pas, que... voilà. Donc, travailler en équipe, et en tout cas, moi, je vois que les dirigeants, me semble-t-il, ont vraiment tous conscience de cet enjeu-là et de ce besoin-là. Après, voilà, ça se fait pas en un jour non plus.
Alors, comme dans tous les autres secteurs d'activité, on a là aussi une problématique d'attractivité en termes de marque employeur. Alors, le logement social, historiquement, n'est pas un secteur qui communique, qui vit quand même plutôt caché et qui a possibilité d'offrir des carrières, des métiers très, très riches et variés et qui font sens. Alors, comment on se saisit de ce sujet pour devenir une marque attractive, une marque employeur attractive?
En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que aujourd'hui, de plus en plus de dirigeants aussi prennent conscience de, encore une fois, la RSE comme pouvant être un des atouts, évidemment pas le seul, mais en tout cas, un des leviers qui peuvent être activés dans un contexte où, effectivement, les bailleurs sociaux, comme beaucoup d'entreprises, ont du mal à recruter, ont assez peu de visibilité, de notoriété, voire même une image qui est pas forcément toujours très positive. Souvent des petites structures aussi, dans des territoires qui eux-mêmes sont parfois un peu compliqués. Donc l'enjeu de comment recruter et fidéliser est aujourd'hui effectivement très important. Et la RSE peut être un levier à la fois d'attractivité vis-à-vis de candidats potentiels, parce que candidats en quête de davantage de sens ou sensibles à y compris des démarches RH qui sont inscrites dans le cadre de la politique RSE. Et puis, c'est un levier aussi de fidélisation des salariés en place dans un contexte où aussi on fait face à ça avec un turnover qui est un peu plus important aujourd'hui et où tout ce qui peut être mis en place dans le cadre d'une démarche RSE, d'une réflexion autour de la qualité de vie au travail, de oui, on sait que sur le plan de la rémunération, on ne sera pas forcément les plus attractifs, mais on a peut-être d'autres leviers sur l'organisation du travail, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la qualité de vie au travail, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, sur aussi des cultures d'entreprise, au-delà même du sens qui est un peu, encore une fois, par nature, et puis d'un engagement. On a des salariés, malgré tout, qui sont de plus en plus sensibles à l'engagement de leur entreprise, quelle qu'elle soit et quel que soit le secteur d'activité, l'engagement de l'entreprise face à des enjeux sociétaux et environnementaux.
Quand on vous écoute, on a l'impression que la RSE, c'est une opportunité et ça répond à beaucoup de choses. Ce qui veut dire que quand on saisit du projet stratégique de l'entreprise, on commence par la RSE.
Alors non, je dirais pas forcément qu'on commence par la RSE.
Guide.
Il y a beaucoup de choses évidemment dans une stratégie d'entreprise. En tout cas, moi, je pense que la RSE peut être encore une fois un outil de questionnement, une méthode finalement pour construire sa stratégie. En tout cas, ce qui est sûr, et ça c'est vraiment une conviction, c'est que la stratégie d'entreprise et la RSE ne peuvent pas se penser de manière séparée. La RSE est dans la stratégie, ne peut pas être à côté. Sinon, on est sur de la RSE, pour moi, que j'appelle la RSE gadget, ou la RSE parallèle. Donc, la RSE doit traiter le cœur de métier et la stratégie doit intégrer la RSE.
Et alors, comment on mesure que ça fonctionne? Est-ce qu'on a des outils? Est-ce qu'on a des indicateurs particuliers? Comment aujourd'hui, là, depuis le temps que vous êtes investi sur ce secteur-là, comment vous mesurez que ça avance?
Alors déjà, en matière de RSE, pour moi, il est aussi nécessaire d'avoir des indicateurs quantitatifs qui servent à la fois en interne à piloter la démarche, à effectivement mesurer les progrès par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés. Sinon, effectivement, on n'est pas en capacité de voir et d'évaluer. Et ces indicateurs vont aussi servir en externe à rendre compte. C'est aussi un élément important en matière de RSE, cette fameuse transparence et rendre compte vis-à-vis de ces parties prenantes. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je dis parties prenantes, on voit que de plus en plus de financeurs, que ce soit des partenaires ou des financeurs privés, les banques, les acteurs financiers sont eux-mêmes de plus en plus challengés sur leur RSE et du coup s'intéressent de plus en plus à la RSE des organismes et des organisations qui financent et sont en demande d'indicateurs. Donc ça, c'est sur la partie indicateurs quantitatifs. Néanmoins, il est clair qu'en matière de RSE, on ne peut pas avoir que des indicateurs quantitatifs. Il y a des choses qui sont moins quantifiable, moins tangible directement. Et là, moi, je trouve que c'est intéressant, toujours dans cette logique d'amélioration continue, d'avoir des temps de bilan, d'évaluation de ces projets, de ces pratiques. Ça peut être tous les 2-3 ans, ça peut être fait en interne ou avec l'aide d'un ou le regard d'un tiers extérieur, mais d'avoir ces moments où on va se poser un petit peu, regarder le chemin parcouru, se réinterroger sur voilà, est-ce qu'on continue à aller dans le bon sens, est-ce que il faut qu'on revoie un petit peu notre stratégie sur certains sujets. Et ça va passer par vraiment de l'évaluation plus qualitative. Encore une fois aussi, on en revient aux parties prenantes, aller interroger les parties prenantes, que ce soit en interne ou en externe, pour avoir aussi leur regard sur les évolutions de la stratégie de l'entreprise.
Charlotte, est-ce que vous avez des exemples d'initiatives très concrètes qui vous ont marqué ?
Alors, je pourrais en citer plein, mais effectivement, si je devais comme ça en citer quelques-unes qui m'ont vraiment interpellée positivement, je dirais peut-être alors sur le plan environnemental, puisque c'est des enjeux forts, cet exemple de bailleur qui cherchait à développer le chauffage bois, puisqu'il y avait une ressource locale disponible à proximité, énergie renouvelable, mais il manquait finalement la structure pour porter ça, et qui a embarqué des acteurs locaux pour créer ensemble une nouvelle filière et une nouvelle entreprise capable de fournir cette énergie bois localement. Donc ça, c'est une initiative que je trouve intéressante, puisqu'on trouve bien à la fois l'enjeu environnemental de base, mais également la question de la coopération avec les parties prenantes et finalement une création d'activités économiques aussi. Un peu sur le même mode, un autre exemple qui m'a marqué, et il y a plusieurs initiatives d'ailleurs dans le secteur là-dessus, c'est sur l'économie circulaire, avec pareil la création d'une filière locale de réemploi de matériaux, de déchets, notamment de construction, autour des projets de construction, de réhabilitation, qui embarque là encore les acteurs du territoire. Et après, sur un tout autre plan, une initiative qui m'a marquée également sur la question du handicap, avec un bailleur qui avait décidé de s'engager fortement sur ce sujet-là et qui s'est interrogé sur ses leviers d'action, à la fois en tant que bailleur social, donc en réfléchissant à des offres adaptées pour des publics en situation de handicap, sur la question de la relation à des locataires en situation de handicap, notamment visuel et auditif, qui posent évidemment des questions d'interaction avec ces locataires-là, et qui s'est posé, du coup, pour boucler la boucle, la question sur ses leviers d'action en tant qu'employeur, avec une vraie réflexion autour de l'accompagnement et l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Et là, je trouve que c'est une belle façon de montrer comment, avec un sujet qui lui tenait à cœur, visiblement, comment on essaie d'activer le maximum de leviers, aussi bien dans son cœur d'activité que dans son fonctionnement interne.
Pour conclure, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous nos auditeurs pour les inviter à s'engager dans ce type de démarche ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix, déjà. Je ne sais pas si c'est ce qui est le plus motivant, mais en tout cas, moi, je suis convaincue que la RSE, c'est une question aussi de résilience, pas seulement de notre environnement et de notre société, c'est une question aujourd'hui de résilience des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire prendre conscience que, qu'on le veuille ou non, de toute façon, ces enjeux, ils s'imposent à nous. Et je pense que plus on le prend tôt et plus on anticipe par l'innovation, plus on sera résilient et fort au final. Ça, c'est la première chose. Après, j'aurais envie de dire... ça s'impose à nous et en même temps, il faut le faire avec authenticité, avec sincérité et avec son identité à soi en tant qu'entreprise et en tant que dirigeant. Je pense que là, il y a un rôle fort des dirigeants et qu'en fonction du dirigeant, la RSE va pas être teintée de la même façon. Mais il faut aussi le faire avec ses propres convictions personnelles parce que je pense que la notion de sincérité et d'authenticité, elle est clé sur ce sujet-là.
Merci Charlotte.
Merci à vous.
J'ai été ravie de voir dans cet épisode que la RSE permet de répondre d'une part à des problématiques de société en initiant des coopérations innovantes et d'autre part aux difficultés actuelles des entreprises en termes d'organisation, de recrutement ou de performance. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec l'ensemble de vos réseaux.
Dirigeants. Comment concilier RSE et performance économique est un podcast original du club TGS France. Le club TGS France est un club de réflexion, d'échange et de débat pour les entrepreneurs dont la devise est « réfléchir, décider, agir ». Quatre fois par an, les membres du club se réunissent au cours de conférences pour un temps d'information et d'échange sur des thématiques au cœur des préoccupations des entrepreneurs.